Mirambira sa Mirana. Nous sommes le samedi 8 mai 2021. C'est le moment d'écouter le journal parlé en langue française. À la présentation, Valérie Mucho. Tout d'abord, les principaux titres de cette édition. Les organisations de la société civile ont très mal accueilli la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de retirer définitivement le Burundi sur l'ordre du jour de ce Conseil et de mettre fin au mandat de la mission d'observation. Dans ce journal, vous entendrez la position de la Ligue des droits de l'homme, ITK. C'est la grogne au sein des habitants de la commune Makebuko, au centre du pays. La population est forcée à contribuer financièrement pour la construction d'un terrain de jeu. Et puis, les activités commerciales sont paralysées dans la zone Maramirundi, en commune Busiga, suite à l'effondrement d'un pont. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bienvenue à tous.
Inzamba.
L'effondrement du pont de la rivière Akayave, reliant les communes Kayanza et Busiga de la province Ngozi, a eu des impacts négatifs sur les activités commerciales dans la zone Maramirundi de la commune Busiga. Cette zone est traversée par la même route en direction du Rwanda. L'effondrement avait eu lieu en début du mois de cette année. Le point avec Kamikaze Delicia.
Depuis la rupture de la circulation des véhicules sur ce pont, les véhicules transportant les marchandises en provenance de la ville de Kayanza où l'on s'approvisionne doivent s'arrêter à leur arrivée au niveau de la rivière Akayave. Les marchandises sont déchargées et sont transportées sur la tête vers l'autre rive. Puis, on les charge de nouveau sur les motos ou les vélos qui les amènent jusqu'au marché du centre Maramirundi, situé à environ 4 km de la rivière. À défaut de passer par la RN1, certains commerçants préfèrent passer par la RN6 en direction de la province Ngozi, puis contournent vers les chemins de la commune Busiga, parfois glissant jusqu'en zone Maramirundi. Par conséquent, les prix de certaines marchandises sont revus à la hausse. À titre d'exemple, un kilo d'huile de palme qui jadis coûtait 2800 francs, aujourd'hui, il s'achète à 3600 francs. Un kilo de farine de manioc ayant passé de 550 à 1000 francs. À part ces impacts observés sur les activités commerciales, la santé de la population n'a pas été épargnée. Actuellement, les personnes gravement malades et les femmes enceintes en difficulté d'accouchement ne sont plus évacuées vers l'hôpital de référence de Kayanza, proche de la localité par rapport à celui de la ville d'Ngozi. Et pour cause, l'ambulance ne peut plus y accéder. De tout ce qui précède, la même population demande au gouvernement de faire en sorte qu'un nouveau pont soit construit, mais en attendant, il soit mis en place un passage provisoire tel que l'avait promis le ministre en charge des infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux en date du 4 mars dernier. Le lendemain même de l'effondrement du pont, lorsqu'il s'était présenté lui-même sur le lieu pour constater les faits.
Les détaillants des boissons produits par la Braroudi dans différents endroits de Bujumbura se disent inquiets face à la spéculation de certains grossistes qui augmentent les prix de vente. Une spéculation qui fait perdre de l'argent à ces détaillants. Le point avec Blaise Nijimbere.
Ces détaillants indiquent que depuis que la Braroudi a revu à la hausse des prix de certains produits comme Amstel, Bock, Royal et Fontan, certains grossistes se sont donné le droit d'augmenter le prix du casier. Aujourd'hui, un casier d'Amstel s'achète à 21 000 francs alors qu'il coûtait 19 600 francs burundais. Le casier de Royal s'achète à 39 000 francs au lieu de 34 400 francs burundais, tandis qu'un casier de Bock coûte 30 500 francs alors qu'il s'achetait 25 800 francs burundais. Les détaillants de ces produits se disent étonnés de voir cette hausse des prix alors que cela se passe aux yeux de l'administration locale. Les détaillants contactés par la radio Inzamba font savoir qu'ils enregistrent une perte énorme et ajoutent qu'aujourd'hui, ils reçoivent un bénéfice inférieur au prix d'une seule bouteille. Ils se disent étonnés du silence de l'administration devant une telle situation. Ces détaillants craignent de ne plus avoir de quoi payer le loyer si cette situation s'éternise et demandent aux autorités administratives et aux forces de l'ordre de jouer leur rôle. Signalons que les prix des autres produits comme Primus et Petit Amstel restent inchangés.
Les habitants de la commune Makebuko, c'est dans la province de Gitega, au centre du pays, s'insurgent contre la contribution forcée que leur exige l'administration pour la construction d'un stade. Cette contribution est répartie en deux tranches. Chaque ménage doit payer une somme de 1000 francs et en même temps, il doit participer dans les travaux manuels. Ceux qui s'absentent à ces travaux doivent alors payer une amende de 5000 francs. Le point avec Jacob Siboman.
Tous les habitants de la commune Makebuko, de toutes catégories confondues, sont priés de se présenter au chef-lieu de la commune pour les travaux de construction. En plus de cette contribution, ils ont été forcés de payer une contribution chacun de 1000 francs burundais, selon le témoignage des habitants. Pire, même les plus âgés doivent participer aux travaux de construction, alors que certains d'entre eux n'ont plus la force.
C'est une grande tristesse pour nous, les natifs de la commune Makebuko, parce que cela ressemble aux travaux forcés. Pire, parmi ces habitants, on y trouve des personnes âgées de plus de 65 ans qui reçoivent l'ordre de se présenter dans ces travaux alors qu'ils vivent loin de la commune Makebuko qui se trouve à la périphérie de la province. Pour dire que ceux qui sont des collines de la zone Maranja et Melinda viennent de très loin. Ils parcourent de très longues distances. Parmi eux, il y en a des vieux.
Selon ces habitants, le gouverneur de Gitega devrait prendre une décision de suspendre cette mesure qui viole les droits des citoyens.
Nous demandons à l'administration de suspendre ces contributions forcées. On ne peut pas contribuer par force, on le fait par volonté. Et on ne peut pas non plus donner de l'argent et en même temps participer aux travaux manuels.
Ces habitants se plaignent également que ces travaux leur prennent beaucoup de temps alors qu'ils devraient s'occuper aussi de leurs propres champs. Autre chose, il n'y a pas un horaire fixe pour ces travaux. Ils sont appelés à tout moment. Nous n'avons pas pu joindre l'administrateur communal de Makebuko pour sa réaction.
Au nord du pays, les commerçants de la commune Kirundo déplorent la paralysie des activités observées ce samedi à cause de la visite du président du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Révérien Ndikuriyo était parti à Nyarunazi apporter à sa contribution dans la construction d'un stade dans le cadre des travaux communautaires de tous les samedis. Les commerçants de la place ont été contraints d'aller eux aussi faire ces travaux communautaires. Écoutez un des commerçants contacté par la radio Inzamba.
Aucune activité n'a été faite dans la commune de Kirundo. Ils ont fermé les marchés et toutes les boutiques parce que le président du parti CNDD-FDD au niveau national était venu pour faire des travaux communautaires en commune Boussoud dans le but de faire débuter les activités de construction d'un stade. Mais en réalité, il parle qu'il serait venu à cause des mésententes qui s'observent entre les membres du CNDD-FDD de cette province. Comme commerçants, nous n'avons pas bien accueilli la paralysie des activités du marché parce que nous n'avons pas pu trouver notre pain quotidien. Ils nous ont contraints de se rendre tous en commune et pour participer à ces travaux communautaires. Nous trouvons ça comme une violation de nos droits. Que ces travaux soient faits par ceux qui le veulent, étant donné que c'était des travaux organisés au sein d'une autre commune qui n'est pas la nôtre. Que ceux qui habitent en commune Yabusoni y aillent, sans toutefois qu'on nous oblige à y aller par force.
Radio Nzamba, nous avons essayé de joindre par téléphone l'administrateur communal de Busoni ainsi que le gouverneur de la province Kirundo, mais sans succès.
Suivez les émissions de la Radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
La décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de retirer définitivement le Burundi sur l'ordre du jour et de mettre fin au mandat de la mission d'observateur des droits de l'homme et d'experts militaires a été très mal accueillie par la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK. Emmanuel Niwidzi, le vice-président de cette Ligue, parle d'une décision hâtive pour un pays où des personnes sont enlevées et tuées au quotidien. Écoutez.
Nous disons que on n'a pas considéré d'une façon objective la situation actuelle sur le terrain aujourd'hui on observe encore des assassinats ciblés. Le cas est de celui d'Omoalo où deux fois dans une période n'excédant pas un mois, on a dénombré des citoyens paisibles tués par déjà et on n'a pas encore jusqu'ici identifié les auteurs, chose qui est inquiétante. À tout cela s'ajoutent d'autres violations que nous ne cessons de dénombrer sur le terrain, le cas d'arrestation arbitraire des membres des partis politiques de l'opposition, tout ça, même les enlèvements et autres violations. On devrait tenir en considération de tout cela et demander au gouvernement de revoir la situation et de sécuriser tout le monde. Et je me dis que aussi que l'Union africaine devrait plutôt mettre la pression sur le Burundi afin de revoir et sécuriser tous les citoyens et cesser les violations qui se commettent quotidiennement, les emprisonnements abusifs, les assassinats ciblés, les enlèvements. Et nous demandions aussi que la communauté internationale ne considère pas cette décision prise par l'Union africaine.
Cette décision de l'Union africaine entrera en vigueur le 31 mai de cette année. Certains des réfugiés burundais du camp de Mulongwe, c'est en République démocratique du Congo, sont sans abri et dorment à la Belle Étoile. Leurs maisons ont été détruites par les eaux de ruissellement et une forte humidité. Ils demandent au HCR et ses partenaires de leur trouver d'autres maisons. C'est un reportage signé Diane Ngurunziza.
Les réfugiés burundais du camp de Mulongwe indiquent que leurs maisons ont été détruites par les eaux de ruissellement. Le fait que leurs maisons étaient construites dans des matériaux non durables et qu'elles étaient vieilles aurait joué un facteur non négligeable de cette destruction.
Les eaux de ruissellement ont un débit très fort, surtout en cette période pluvieuse. Il y a aussi une humidité non négligeable dans ces maisons. Nos maisons sont vieilles, ces dernières s'effondrent.
Il demande au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR en sigle, et aux autres partenaires de leur trouver à d'autres maisons parce qu'ils mènent une vie précaire.
Les
eaux générées par l'humidité se mélangent avec les eaux de ruissellement et débordent dans les lits. Nous vivons dans une situation difficile où on ne trouve pas d'espace pour nos objets. Il est même impossible d'allumer le feu dans ces maisons qui s'effondrent. Nous demandons au HCR et ses partenaires de nous venir en aide pour nous trouver d'autres abris dans des endroits plus sûrs dans le camp.
La rédaction de la radio Inzamba Gatekakawe n'a pas pu avoir la version du HCR ni celle du représentant des réfugiés sur les voies et moyens possibles qu'ils comptent engager dans la gestion de ces catastrophes.
La décision de regrouper les réfugiés burundais en trois catégories a été précipitée et mal faite selon la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps des réfugiés, la CBDH Vicar en sigle. Cette coalition demande aux intervenants à cette décision de recourir aux enquêtes approfondies afin de sauver les réfugiés classés dans la catégorie de ceux qui ne sont plus assistés. Écoutez Léopold Chirangabo, le vice-président de CBDH Vicar.
Le HCR, l'OPAM et le gouvernement rwandais ont expliqué pourquoi ils ont regroupé les réfugiés. Si on analyse bien les critères sur lesquels repose cette inégalité sociale, on trouve qu'il y a des erreurs. Car il y a des réfugiés qui sont regroupés dans le premier groupe alors qu'ils devraient être dans le troisième groupe. Et vice-versa. Par exemple, il y a des élèves qui sont dans le troisième groupe. Dans ce cas, ces derniers vont abandonner l'école pour aller chercher du travail. Il y a aussi des réfugiés qui ont des diplômes, mais qui ne sont pas capables de nourrir les enfants sans qu'il y ait l'intervention du HCR et du PAM. Il faut qu'ils fassent une enquête très profonde, en commençant bien sûr par les communautés, pour qu'il n'y aura pas de victimes de cette décision. En se donnant bien sûr exemple au Rwandais, où ils descendent sur le terrain avant qu'ils mettent en place ces catégories sociales. Donc, nous demandons au HCR, au PAM et aussi au ministère en charge des réfugiés de descendre au niveau des communautés afin qu'ils puissent avoir des informations fiables pour qu'il n'y ait pas de morts de faim suite à ce groupement des réfugiés.
Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous parlons de la situation de la liberté de la presse au Burundi, quelques jours après la célébration de la journée irrelative dans le monde. Au cœur de la société, à la présentation, Joséphine Jones Munzimana.
Au cœur de la société.
Frontières a publié le 20 avril son rapport annuel sur la liberté de la presse dans le monde. Dans ce rapport, qui a porté sur 180 pays à travers les 5 continents, le Burundi a grimpé de 13 places par rapport à l'année passée, passant de la 160e place à la 147e place. Selon RSF, la plus belle progression de l'année au Burundi est due notamment à la libération des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu. Cet indicateur suffit à lui seul pour parler de la liberté de la presse au Burundi. Les réponses à cette question, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 8 mai 2021 à la présentation Joséphine Jossou-Muzemana. Bienvenue. Avant d'entrer en profondeur dans ce mini-magazine, Aimable Nishimne revient sur différentes places que le Burundi a occupées ces dernières années selon toujours le classement de Reporters sans frontières.
Avec la 147e place au classement mondial actuel, le Burundi n'a toujours pas atteint la place qu'il avait au niveau de la liberté de la presse, juste avant le début effectif de la crise de 2015. L'édition 2015 de RSF, qui concerne l'année 2014, classait le Burundi à la 145e position. Une année plus tard, le Burundi a chuté de 11 places et a été classé 156e au classement mondial de Reporters sans frontières. C'était après l'assassinat du journaliste de la RTNB, Christophe Nkezabahizi, avec sa famille le 13 octobre 2015 et la destruction à l'arme lourde des médias indépendants quelques mois plus tôt. La disparition forcée du journaliste du groupe de presse Iwachu, Jean Bigirimana, en juillet 2016, a également influencé une autre régression de 4 places, classant ainsi le Burundi à la 160e position dans l'édition 2017. Le Burundi a ensuite tourné autour de la 159e et la 160e place jusqu'en 2020 après l'arrestation des journalistes d'Iwachu. Aujourd'hui, ces journalistes ont été graciés par le président de la République après avoir accepté les condamnations leur infligées par la justice burundaise. C'est l'un des facteurs qui ont poussé RSF à classer le Burundi à la 147e position. Le Burundi a ainsi reculé de 57 places depuis la prise du pouvoir du CNDD-FDD, puisqu'en 2005, il occupait la 90e place au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.
Arnaud Progère, directeur au niveau Afrique au sein de Reporters sans frontières, explique ici les motivations de la progression du Burundi au cours de cette année.
Il retrouve en fait une position qu'il occupait juste avant le début de la crise burundaise il y a 6 ans maintenant. Et cette progression, elle s'appuie sur des faits qui sont eux-mêmes importants. Il y a d'abord eu la libération et la grâce accordée à 4 journalistes d'Iwachu. Puis ça a été suivi quelques jours ou quelques semaines plus tard, au début d'année, par des annonces importantes aussi qui ont été faites à l'endroit des médias qui ont été ou détruits ou sanctionnés ou suspendus. Tous ces médias-là n'ont pas encore repris leur activité, mais c'est le cas pour une part d'entre eux, comme Radio Bonnet FM par exemple, et puis le site aussi d'Iwachu qui était censuré. Reste maintenant à savoir si ces premiers signaux encourageants sont la manifestation d'une nouvelle ère pour la presse et les médias burundais, puisque des enjeux et des chantiers qui restent extrêmement importants.
À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mai, la ministre de la Communication, Marie-Chantal Nitimbele, a fait savoir que la multiplication des médias au Burundi prouve à suffisance que la liberté de presse est une réalité dans le pays. L'Union burundaise des journalistes burundais ne le voit pas de cet œil. Selon la secrétaire générale de cette organisation, Judith Masikama, les indicateurs de la liberté de la presse sont loin d'être cela.
Il semble occulter d'autres faits qui parlent d'eux-mêmes. Je pense notamment à l'existence d'une centaine de journalistes en exil et à la condamnation de journalistes à la peine de prison à perpétuité pour des faits relevant de l'exercice de leur profession. Même avec ces deux faits, le Burundi ne serait pas pris pour modèle de respect de la liberté de la presse. Mais il n'y a pas que cela, malheureusement. La multitude des organes de presse dont on parle travaille dans des conditions qui ne garantissent pas aux professionnels des médias le libre exercice de leur profession. Le monitoring des violations des droits de journalistes fait par l'Union burundaise des journalistes rapporte des cas de harcèlement, d'intimidation, de menaces que subissent au quotidien les professionnels des médias de la part de l'autorité administrative, de la police ou même de la milice Imbonerakure. On observe aussi différentes formes de restrictions d'accès à l'information, car les détenteurs de l'information croient encore à tort qu'informer les journalistes est une faveur et non un droit qui leur est reconnu par la loi. C'est sans doute cette mauvaise conception qui fait que les autorités ont pris la mauvaise habitude d'étiqueter les journalistes de bon et mauvais, ce qui fait que certains journalistes sont exclus de la couverture de certains événements officiels. Le climat de méfiance entre les autorités et les médias, né de la crise de 2015, a créé des mécanismes d'autodéfense par lesquels les journalistes s'imposent une autocensure par peur des désagréments s'ils osent traiter des sujets qui fâchent. Et ceux qui osent traiter de tels sujets, car il y en a quand même, sont considérés comme des ennemis et sont toujours dans le viseur du Conseil national de la communication.
Vous venez d'entendre avec moi que pour garantir le respect de la liberté de la presse, le Burundi devrait respecter au moins les lois et les conventions internationales auxquelles il a souscrit. C'est ici que prend fin le mini-magazine d'aujourd'hui. Rendez-vous samedi prochain pour un autre mini-magazine. Josephine Johnson Mundemana, j'étais à la présentation. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Et avant de clore ce journal, je vous propose de suivre la revue de la presse à la présentation Alexandre Nyongeko. Bonne réception.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue dans cette revue de la presse. Effort perdu pour feu Pierre Nkurunziza, écrit le journal Burundi Daily.net. À ses yeux, son stade personnel érigé dans son Ngozi natal à Bouillé était un bijou de l'architecture moderne qui aurait pu séduire le jury de la CAF. Au lieu de se laisser happer par la folie envie de construire beaucoup de stades hors normes, il aurait dû sans doute ériger au moins un stade qui puisse accueillir les matchs internationaux. La Fédération africaine de football, la CAF, a donné son verdict. Aucun stade burundais n'a le niveau requis pour abriter un match international. Selon la liste des stades agréés par la CAF, le Burundi est le seul pays de la communauté est-africaine à figurer sur la ligne rouge. Le personnel des différentes structures de l'Organisation des Nations Unies au Burundi peuvent aller chercher le vaccin du Covid-19 ailleurs, souligne Net Press. Ce sont des propos du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le docteur Tadde Ndikumana, au moment où une lettre de demande a été adressée au Comité national de lutte contre le Covid-19. Il dit que le personnel de l'ONU qui travaille au Burundi peut aller trouver le vaccin dans les autres pays qui le fournissent et retourner au Burundi. Et quant au Burundi, selon toujours le ministre Ndikumana, il attendra toujours l'homologation du vaccin de Covid-19 par l'OMS, car ce vaccin qui est donné par les différents pays ne sont que des vaccins d'essai, selon toujours les déclarations du ministre Ndikumana. Le commerce autour de l'ancien marché central continue malgré l'interdiction, précise l'hebdomadaire Iwachu, de la friperie dans des stands en dur. Des légumes étalés sur des sacs en plastique et des sacs à main sont les principaux produits vendus dans cet espace. Avec un mouvement de gens qui vont ou partent dans parking des bus desservant la ville de Bujumbura à l'autre, c'est un emplacement stratégique pour les petits commerçants exerçant dans cet espace. Mais des fois, ces marchands ambulants sont chassés par des policiers sans pitié, selon toujours l'hebdomadaire Iwachu. Et pourtant, ces vendeurs ambulants affirment qu'ils payent des taxes. Les percepteurs et les agents de la mairie perçoivent 500 francs burundais par personne, et cela trois fois par semaine. Et les examens choisis un mois avant leur passation, les enseignants ne sont pas rassurés, souligne la voix de l'enseignant, alors que le début des examens du troisième trimestre est prévu le 11 juin 2021. Les enseignants de la direction provinciale de l'éducation à mairie de Bujumbura sont en train de choisir ces examens depuis mercredi le 5 mai. Ce travail durera une semaine. Les examens choisis sont acheminés à la direction communale de l'éducation qui élaborera un seul questionnaire pour chaque cours, pour toutes les écoles de son ressort. Les enseignants disent que les examens choisis plusieurs jours avant leur passation et qui partent par plusieurs mains sont faciles d'être fraudés, comme il en a été d'ailleurs au second trimestre dans la direction communale de l'éducation de Nahangwa et dans d'autres localités du pays. Et voilà, c'est donc ici que prend fin cette revue de la presse. Au revoir et à la prochaine.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté oreille attentive. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée et surtout un très bon week-end. À nous revoir, à la prochaine.